en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Dans notre grande série sur l'Égypte, il est une figure mal connue qui a pourtant joué un rôle important à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle. Il s'agit de Dominique Vivant Denon. Pour nous en parler, Canal Académie a le plaisir d'accueillir Pierre Rosenberg de l'Académie française. Monsieur Pierre Rosenberg, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Canal Académie pour nous éclairer sur ce personnage à multiples facettes que fut Vivant Denon. Vous avez été, Pierre Rosenberg, président directeur du Louvre jusqu'en 2001 et Dominique Vivant Denon fut le premier directeur de ce muséon, ce temple des muses, des plus célèbres du monde. Il vous a donc précédé dans ce poste.
Oui, c'est le plus grand directeur du Louvre, incontestablement. C'est un personnage extraordinaire. Le Louvre, qui à l'époque, par flagornerie de Denon à l'égard de l'empereur, s'est appelé Musée Napoléon, assez vite.
Oui, et qui était largement fêté dans sa collection.
Exemplaire. C'est un musée qui a servi d'exemple à l'Europe entière. Et parce que justement, Denon avait à la fois la chance de posséder, d'avoir mené au Louvre de grandes collections, mais surtout des idées qui étaient celles de l'histoire de l'art. Jusqu'à lui, au fond, les tableaux étaient accrochés selon le goût du prince, en désordre, selon des principes esthétiques. Avec Denon, les choses changent. Et on veut que le musée soit présenté chronologiquement. Il tient beaucoup à la division par école. Il veut à la fois bien sûr donner du plaisir à ceux qui visitent le musée, mais aussi il veut les instruire. Il a recueilli les idées de la Révolution sur le rôle éducatif des musées et il est, pas le premier tout à fait, mais le premier à cette échelle, à avoir vraiment divisé les écoles du Nord, l'école italienne, l'école française, et avoir souhaité une présentation chronologique qui permette de comprendre comment l'art évolue de siècle en siècle. Et à cet égard, il a évidemment été complètement imité par tous les musées du monde entier jusqu'à nos jours. Il n'y a pas un musée qui fasse autre chose aujourd'hui. Alors il y a une grande tristesse sur Denon, évidemment, et qui n'est pas tout à fait hors sujet par rapport à la question que vous posiez, qui est la suivante. En 1814, première chute de Napoléon, les alliés vainqueurs se réunissent à Vienne, au premier congrès de Vienne, et décident, tellement le Louvre est devenu exemplaire, et en dépit du fait que les collections du Louvre de l'époque sont constituées, il faut bien le dire, de pillages, en Italie, en Allemagne, dans tous les pays, en dépit de ces pillages, les alliés de 1814 décident de ne pas toucher au Louvre, de ne pas reprendre les œuvres pillées par Napoléon et par Dominique Vivant Denon, et de laisser telles quelles. C'est seulement parce que Napoléon, de retour de l'île d'Elbe, accueilli triomphalement par les Français, après Waterloo, c'est seulement pour punir les Français d'avoir accueilli avec un tel enthousiasme le retour de Napoléon, c'est seulement pour les punir, il y a à cet égard une lettre célèbre de Wellington que la presse de 1815 publie, c'est seulement pour les punir qu'on décide de démanteler le Louvre et de rendre au pays vainqueur les œuvres volés ou, oui, enfin disons simplement pour ne pas compliquer les choses, volés par Napoléon, par Bonaparte, puis par Napoléon, dans les principaux pays d'Europe. Donc, c'est vous dire que le Louvre
Par les ferveurs de
Le Louvre était tellement admiré par l'Europe entière qu'on le considérait comme un musée exemplaire européen auquel on ne toucherait pas. Et il est vrai que les œuvres qui ont été restituées, en grande majorité, en grande majorité restituées aux pays vainqueurs, ne sont pas retournées dans les collections princières où elles étaient ou dans les églises qui les conservaient, mais ont été la base des musées qu'à l'exemple du Louvre, ces pays ont créé.
Oui. Suite à cette histoire que vous racontez, cette anecdote historique, on peut trouver donc aujourd'hui au British Museum à Londres une énorme collection des antiquités égyptiennes.
Ah oui, alors ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire qu'on peut raconter aussi très très simplement. On parle toujours de la campagne d'Égypte et vous m'interrogerez sur elle, je pense, tout à l'heure. Et j'en dirai beaucoup de choses. On oublie deux choses. On oublie la défaite sanglante d'Aboukir où la flotte française est détruite. Nelson anéantit la flotte française. Donc Bonaparte et toute son équipée sont prisonniers en Égypte. Et de ce fait, quand Bonaparte quittera l'Égypte, avec Denon d'ailleurs, il laissera en Égypte tout ce qu'il y avait rassemblé. Et les Anglais vainqueurs ramènent au British Museum tout ce que, en fait, Bonaparte et son énorme équipe scientifique qui était avec lui avaient recueilli pour le ramener en France. Donc, cette collection du British Museum, y compris la pierre de Rosette, qui a permis ensuite à Champollion de déchiffrer les caractères égyptiens, enfin, les hiéroglyphes, est au British Museum, mais c'est en fait un vol des Anglais aux Français qui eux-mêmes avaient volé aux Égyptiens.
Oui, parce que c'était un ingénieur français qui l'avait découverte, cette pierre de Rosette.
C'est un ingénieur français qui l'a découvert, mais sur Champollion qui l'a déchiffré. Mais la campagne d'Égypte, puisqu'on parle comme ça un peu, hein, est une, bon, à mon avis, moi je suis pas un fervent de Napoléon, mais le moment de l'Égypte, cette campagne d'Égypte, c'est le grand moment de Bonaparte, où il prouve, d'une part, qu'il a recueilli les grandes idées de la Révolution, d'éducation de ceux qui sont démunis, et qu'il a en même temps une véritable volonté scientifique. Il fait venir avec lui, en Égypte, les principaux savants français, Monge, bien d'autres, de toutes les disciplines. Il y a des ingénieurs, il y a des géographes, il y a des chimistes, il y a des astronomes, il y a tout ce que vous voulez. Des interprètes, bien entendu. Il y a une quantité de savants qui l'accompagnent en Égypte pour étudier l'Égypte, d'une part, et pour savoir un peu ce qu'était cette Égypte, si j'ose dire, pharaonique, mais aussi l'Égypte copte et l'Égypte musulmane, mais également pour apporter à l'Égypte, comme on dirait aujourd'hui, les profits de la civilisation.
Et donc, les lumières,
absolument. Donc c'est un moment extraordinaire. Et de nom, qui était le plus âgé des invités, si j'ose dire, de Bonaparte, il avait 51 ans au moment de la campagne d'Égypte, c'est aussi, en un certain sens, le grand moment de sa vie. Et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il était un peu méconnu, c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, je crois. Eh bien, ce de nom, ça a été son grand moment. Et son livre, Voyage à la basse et la haute Égypte, est un chef-d'œuvre, encore aujourd'hui, littéraire et de sensibilité à l'égard de l'Égypte. Je vous en lirai, si vous voulez, tout à l'heure, un passage, je lis très mal, mais enfin, vous verrez
à quel point
l'homme est attachant sur ce point-là. Il y a des points, comme vous le savez, c'est surtout les dames qui le trouvaient très attachant.
Oui, c'était l'ami des dames, entre autres. Oui. Ah, mais c'était un personnage vraiment fascinant et on va, au fur et à mesure, le rencontrer un peu de plus près. De nom qui n'était donc pas dans la liste des savants que vous venez d'énumérer, comment est-il arrivé
à suivre
Napoléon dans cette expédition?
Bonaparte, hein, c'est pas encore Napoléon.
Bonaparte, pardon.
Il ne faut pas confondre, comme vous le savez, dans le Larousse, il y a deux notes du 19e siècle, le grand Larousse du 19e siècle, il y a deux notices. Il y a une notice Bonaparte et une notice Napoléon. Et la notice Bonaparte s'achève, général français, mort, etc.
Donc,
c'est très net. Donc, il était né à Chalon-sur-Saône, où le musée porte son nom aujourd'hui. Il était très proche de la cour royale, mais c'était un diplomate. Et avant la Révolution, il avait été en poste d'une part à Naples et d'autre part à Venise. Et son amour de l'Italie a été constant chez lui. Il n'était pas inconnu et il avait écrit un petit roman licencieux qui s'appelle Point de lendemain, qui est un roman merveilleux qui, a donné lieu à des films.
Qui a eu un grand succès également.
Oui, qui était un roman un peu anonyme et qui est un roman où pas un mot n'est dit plus haut que l'autre. On comprend, si on veut, on ne peut ne pas comprendre l'histoire. Et en fait, c'est une histoire extrêmement crue. C'est une histoire extrêmement crue, mais c'est un chef-d'œuvre littéraire. C'est un vrai roman. Donc, à la Révolution, Denon n'est pas un inconnu. Il a un passé de diplomate et il a un passé d'artiste, non seulement d'écrivain, mais de graveur. Il est un graveur important. Il a été reçu à l'Académie royale de peinture et de sculpture comme graveur. C'est donc quelqu'un de pas du tout inconnu. La Révolution, il la traverse un peu par chance. Il revient à Paris à des moments très dangereux. On ne sait pas très bien comment. Il la traverse un peu par chance. Et puis, il rencontre Bonaparte par l'intermédiaire, bien sûr, de Joséphine de Beauharnais, comme toujours. Voilà. Mais Bonaparte comprend très vite un peu le personnage qu'il est, c'est-à-dire un personnage d'une extrême curiosité, d'une vivacité d'esprit exceptionnelle, un peu un touche-à-tout. Il collectionne, il fait un peu le marchand, il a écrit des romans, il est graveur, et surtout, c'est quelqu'un qui a cette espèce de vivacité exceptionnelle, et notamment en tant que dessinateur. Donc il part avec Bonaparte, exactement en mai 98, sur un bateau qui s'appelle la Junon. Il s'arrête à Malte, il passe par Alexandrie. Il est des membres fondateurs, mais ça vous m'interrogerez, je pense, tout à l'heure là-dessus, de l'Institut d'Égypte.
Oui, oui.
Une institution merveilleuse. Qu'on doit
à Bonaparte, oui.
Qu'on doit à Bonaparte. Et il reste en fait peu au Caire. Le Caire l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la Haute-Égypte, Karnak, etc. Et il part avec le général de C. Et là, ce qu'il fait est extraordinaire, il dessine. Il prend des notes, bien sûr, pour son voyage, mais surtout, il dessine. Et il donne de l'Égypte de l'époque, des batailles, bien sûr, mais surtout de la vie des Égyptiens.
Des habitants, de la population.
De la population. Il les dessine, il les décrit. Et c'est malheureusement, il constitue une énorme collection de dessins qu'il gravera ensuite pour son voyage au Basse Égypte. Mais surtout, ces dessins sont aujourd'hui au British Museum. Et c'est un grand dommage que ces dessins ne soient pas restés en France. Mais enfin, c'est très bien comme ça. Et c'est un document comme il n'y en a pas de comparable. Et en fait, c'est un petit peu cette rencontre entre un Bonaparte tout jeune général, beaucoup plus jeune bien sûr que Vivant Denon. On appelle toujours Vivant Denon à tort, en fait c'est Dominique Vivant, trait d'union entre les deux, Denon. On devrait dire ou Denon ou Dominique Vivant Denon. Mmh. Tout le monde dit Vivant Denon, mais en fait son prénom c'est Dominique Vivant, avec un trait d'union entre eux, passons. Donc cette rencontre est essentielle et elle explique le choix que fera d'abord Bonaparte, puis Napoléon, naturellement Napoléon, de lui confier ce qu'on appelle le plus beau musée du monde, comme il le disait lui-même, et de lui en confier la gestion et l'organisation. L'expédition d'Égypte durera 18 mois, comme vous le savez. Elle s'achèvera très médiocrement. Et Bonaparte rentrera sur le même bateau que...
les deux rentreront sur le même bateau.
Exactement.
Bonaparte et
le livre apparaîtra en 1802, sera immédiatement traduit. Il y a des dizaines d'éditions. Et sa lecture, aujourd'hui, est encore passionnante.
Oui, ça se lit absolument. Très facilement. Vraiment, on ne peut que le conseiller à tous nos auditeurs.
C'est vrai.
D'ailleurs, bien sûr, vous trouverez toutes les références bibliographiques sur notre site.
Vous trouverez surtout, je conseille à ceux qui n'auraient pas vu, d'essayer de se procurer
le
catalogue de l'exposition,
oui.
Qui était un travail d'équipe qui a mis les pendules un peu à jour sur bien des points que l'on ignorait. C'est un catalogue qui a été confié à d'excellents spécialistes de toutes sortes de disciplines. La difficulté avec Denon, pour dire les choses méchamment, c'est que c'est un touche-à-tout.
Voilà, c'est ce que je voulais.
Et par conséquent, pour faire un catalogue de ce genre, et ce qui explique peut-être que les ouvrages qui ont été consacrés à Denon sont toujours si partiaux ou si insuffisants, parce qu'ils ne traitent que d'un angle, soit la vie amoureuse de Denon, soit sa vie administrative, etc., ou le graveur, l'exposition justement avait ce grand mérite, si je puis ainsi dire, de réunir dans chacun des domaines un spécialiste et par conséquent d'avancer nos connaissances dans le domaine, par exemple sur Denon collectionneur, sa collection personnelle. Je crois que les chapitres du catalogue sont absolument essentiels pour ceux qui s'intéressent à la question.
Vous dites également, Pierre Rosenberg, dans le texte de la préface à cette exposition, que vous lui avez consacré au musée du Louvre en 2000.
Avec une énorme équipe.
Avec une énorme équipe, bien sûr. Si vous permettez, je vais lire un petit extrait qui nous donne une idée de ce personnage fascinant. Donc, je vous cite Pierre Rosenberg. Dominique Vivant Denon est l'une des figures marquantes du monde des arts à la fin de l'Ancien Régime et durant l'Empire. Diderot, Voltaire, Robespierre, Joséphine de Beauharnais, Bonaparte sont autant de personnages célèbres qui jalonnent sa vie. Traversant tous les régimes, ce dessinateur, graveur, écrivain, fut aussi diplomate, directeur général des musées, dont le musée Napoléon, aujourd'hui le Louvre, qu'il a profondément marqué de son empreinte. Et voilà donc le portrait que vous faites de ce personnage et par lequel vous lui donnez vraiment toute sa consistance. Mais vous ajoutez deux remarques de nature à alimenter la réflexion. D'abord, ce constat que Denon a laissé l'image d'un homme heureux dans la vie et que, d'une façon générale, la postérité ne s'intéresse guère aux hommes heureux. Et puis, deuxième remarque qui m'a fait sourire, vous notez ensuite que Vivant Denon a excellé en bien de domaines, mais que, là encore, la postérité n'est pas très favorable au fameux touche-à-tout que vous venez d'évoquer, fût-il de génie.
Oui, alors heureux il l'a été, il suffit de voir son portrait par Prudhon du Louvre, où il y a ce sourire très voltairien. Il a été heureux avec les dames, il a été heureux surtout sa grande passion vénitienne, il a été heureux parce que sa carrière s'est déroulée, semble-t-il, sans effort, tout lui est venu tout seul. Il a été quand même un peu plus constant qu'on pourrait le croire, dans la mesure où en 1815, quand on démantèle son musée, pas en 1814, mais en 1815, quand les Alliés s'emparent de ce qui avait été volé à Bologne, au Vatican, à Munich, à Vienne. Il démissionne. Il se retire. Non, parce qu'il est vexé, l'œuvre de sa vie est détruite et il se retire Quai Voltaire. Il y a une plaque qui a été posée à l'occasion de l'exposition sur la maison du Quai Voltaire où il habitait. Et là, il continue de s'occuper de sa collection, qui est une extraordinaire collection, bien sûr de tableaux et de dessins, mais aussi d'objets curieux. Il avait par exemple une espèce de reliquaire où il y avait par exemple des poils de la moustache de Henri IV, ou des choses comme ça. Des choses qui prouvent aussi le côté... il ne se prenait pas tout à fait au sérieux. Il était...
Vous l'avez eu en main, ce fameux reliquaire ?
Oui, naturellement.
Vous voulez pas nous raconter un petit peu comment il se présente ?
Si, c'est un reliquaire avec des objets. Il avait des objets océaniens, mais ça, je parle de sa collection. La collection est universelle. Les arts premiers y occupent une place importante. Ce qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers. Et puis, par exemple, il a été un des premiers à s'intéresser, mais ça n'est pas le reliquaire, bien sûr, au primitif italien, qu'il à l'époque méprisé et négligé. Et si le Louvre a pu en garder quelques-uns de ces primitifs italiens en 1815, c'est tout simplement parce que les pays dont provenaient ces primitifs les considéraient comme des croûtes. Et on pensait que leur transport en retour ne valait pas la peine. Donc on les a abandonnés au Louvre, ces Giotto et ces Cimabue, par désintérêt.
Oui.
Alors le reliquaire, je vais essayer de vous le retrouver parce que vraiment, il est amusant le reliquaire.
avec, paraît-il, des fragments d'eau du Cid et de Chimène.
Absolument.
Ou encore des Louise et d'Abélard.
Tout à fait.
Et des cheveux d'Agnès Sorel.
Voilà. En effet, vous voyez un peu l'humour.
Oui, absolument.
Parce qu'il ne pouvait pas
Et même
instant.
Quelques morceaux d'eau de Molière ou de La Fontaine.
Oui, absolument. Donc, vous voyez, l'homme était très spirituel, certainement pas très croyant. Et en fait, il s'amuse. Donc, il est heureux, mais il s'amuse.
C'était donc un touche-à-tout.
Oui, touche-à-tout.
Même c'est de génie, mais...
Un touche-à-tout. Et ça lui a nuit, naturellement, parce que c'est vrai. Si c'était entièrement consacré au roman, il aurait été un grand romancier. Le seul, il en a écrit d'autres, mais enfin, le seul vrai roman qu'il a écrit est un petit chef-d'œuvre. Le graveur est de premier ordre, de premier ordre. Donc, si vous voulez, je crois que les esprits très curieux, aussi diversifiés, qui sont capables de réussir en tout, et que cette réussite rend heureux, sont pas ceux forcément que la postérité consacre. Parce que si vous voulez, le Louvre, c'était une grosse maison hein, dès l'époque, il fallait l'administrer. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, il voyageait comme un fou pour, dans toute l'Europe, surtout dans les pays germaniques.
Pour constituer la collection, oui.
Bien sûr, à Cassel, toutes sortes de villes où il se faisait donner des œuvres.
En Allemagne, en Italie, en Autriche.
Partout. Mais par ailleurs, il a vraiment marqué le Louvre. Il a organisé les deux départements que le Louvre avait à l'époque, il n'avait que deux, c'est-à-dire les antiques d'une part, et d'autre part la peinture, plus les dessins qui faisaient partie de la peinture. Tout ça a été organisé, systématisé, catalogué. L'inventaire du Louvre, ce qu'on appelle l'inventaire du Louvre de l'Empire, on le lui doit. Et comme vous le savez, une partie de cet inventaire a été écrit, dit-on, de la main de Stendhal, qui était tout jeune attaché auprès du surintendant des bâtiments, auprès de Daru, à qui on a confié la rédaction de l'inventaire du Louvre.
Ah oui, mais il avait fort à faire.
Il avait fort à faire. Oui. D'ailleurs, c'était pas Stendhal, c'était Bell, naturellement. C'était pas encore Stendhal, c'était Bell.
Ah oui,
vraiment.
Oui.
Bien sûr.
Il était d'ailleurs, je crois, très zélé. Enfin, il était en tout cas très sérieux. Il s'occupait d'une multitude de tâches,
de
noms.
Oui, de tout.
En tant que directeur du musée.
Absolument.
Napoléon à l'époque, oui.
Absolument. Son vrai problème.
Des comptes.
Bien sûr.
Mais il parlait avec les architectes. Enfin,
si vous voulez, il avait la confiance de l'empereur. Ça, c'est un premier point. Puis il y avait les architectes avec qui s'entendait déjà beaucoup moins bien. Percier et Fontaine, qui étaient de grands architectes. Il y a eu, par exemple, des querelles célèbres au moment de la construction de l'Arc de Triomphe du Carrousel, le petit Arc de Triomphe, où Denon avait voulu placer une statue de Napoléon. Et il avait beaucoup insisté là-dessus. Percier et Fontaine ne sont pas très heureux. Ils n'aiment pas ça, mais ils obéissent. Et Napoléon, lui, dit « Je n'ai jamais voulu ça, l'Arc de Triomphe, il est à la gloire de mes armées, il n'est pas à ma gloire », et il fait renvoyer la statue. Donc, les conflits existaient, malgré tout, d'une part avec les architectes Percier et Fontaine, et puis d'autre part avec l'empereur, qui n'était pas toujours d'accord avec lui, et qui était sévère dans ses jugements. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre, dont il faut citer, et avec qui les relations n'étaient pas commodes non plus, c'était David. Car David était évidemment
le grand peintre de Napoléon.
Oui,
et qui était avant le grand peintre de la Révolution.
Oui, mais qui a aussi été le grand peintre de l'empereur. Et qui, en un certain sens, lui aussi a été fidèle à l'empereur, comme de nom, puisque, comme vous savez, il est parti en exil en 1815. Il a refusé de rester au service de la royauté. Donc, ces grands personnages-là, il ne faut pas croire qu'ils tous, naturellement, veulent avoir la confiance maximum de l'empereur, se jalousent, se rivalisent, essaient de mener des opérations à leur place. Et là, évidemment, de nom, ses talents de diplomate le servent.
Oui, justement, il est donc...
Très habile.
Une de ses multiples facettes, c'est un bon et un beau parleur.
Oui, il devait,
Il sait parler, il sait communiquer.
Il savait bien parler.
Il sait défendre sa cause.
Ce qui est très curieux, c'est qu'il n'était pas très beau. Mais on le voit bien sur les portraits que nous avons à l'exposition.
Oui, il est élégant.
Et surtout, il a un charme fou.
Et
le charme l'emporte chez lui sur la beauté physique. Il était assez discret, sa vie personnelle, assez discret, assez seulement. Et non, il avait un charme fou, c'est certain. Et il y avait surtout quelque chose que parfois n'avaient pas les principaux collaborateurs de l'empereur, les maréchaux et l'empire, si vous voulez. Il avait cette éducation de l'ancien régime. Les maréchaux d'empire, ils s'étaient fait eux-mêmes des gens d'origine très modeste, sans éducation. Bien sûr, de grands militaires, sans aucun doute. Mais Vivant Denon avait une véritable éducation d'empire.
Oui.
Il était page chez Louis XV et chez Louis XVI. Enfin, donc, il avait un raffinement dans ses propos, dans son art de vivre, qu'on lui a jalousé et qu'on a voulu imiter, bien sûr.
Il venait d'une famille qui était dans le vin. Et à l'époque, c'était une belle bourgeoisie, si
c'était
je comprends
ça,
bien.
C'est ça. Mm. Mais il monte très vite à Paris et très vite, il est à la cour. Il est très vite.
Oui, il s'est glissé très rapidement.
Il avait du talent et du charme.
Oui.
Mais il a prouvé, parce qu'il a fait au Louvre, car après tout, c'est la grande œuvre de sa vie, en dehors de l'Égypte, bien sûr, qui est quand même n'est qu'un petit passage. Et là, si j'ose dire, il est rattrapé par la Révolution et par les idées de la Révolution, il a prouvé qu'il avait un sens de l'État. Et le Louvre, qui a été la grande affaire de sa vie, ça a été sa principale occupation, il y tenait pour des raisons qui n'étaient pas simplement parce qu'il en était le patron, loin s'en faut, mais parce qu'il voulait que ce soit un musée exemplaire. Il a beaucoup un musée scientifique, un musée complet. Donc là, l'homme léger qu'on aurait pu croire être superficiel s'est avéré au contraire très convaincu de sa tâche et de l'importance de ce qu'il faisait.
Alors justement, quelles sont les œuvres majeures que le Louvre doit à Denon ?
Ben, il lui en doit pas tellement, si vous voulez, puisque malheureusement, en 1815, les Alliés ont à peu près tout repris. Alors, sont restés, j'y ai fait allusion tout à l'heure, quelques primitifs italiens, mais très peu. Et puis, par ailleurs, quelques œuvres qui ont fait l'objet d'échanges, comme par exemple les Noces de Cana. Les Noces de Cana, qui étaient à Venise, bien sûr, Venise devenue autrichienne en 1815, même d'ailleurs un peu avant, il y a eu un véritable contrat, un véritable accord entre Venise autrichienne et le Louvre pour laisser au Louvre les Noces de Cana et envoyer en échange à Venise un tableau qu'on considérait à l'époque comme d'importance comparable, un grand tableau des collections royales de Lebrun. Et ce qui reste aussi, bien sûr, ce sont les grands achats, je dis bien les achats, faits par Denon. Il a acheté la collection Borghese. Le prince Borghese avait épousé une des sœurs de Napoléon et il était complètement en faillite et Napoléon lui a acheté sa collection en bloc, en la surpayant. C'est-à-dire que, de manière à vraiment renflouer les caisses ou la trésorerie du prince Borghese, il a surpayé la collection. Et bien entendu, comme elle avait été achetée, il n'a pas été question un instant de la récupérer. Ça, c'est un très grand achat. La collection Borghese était une des quatre ou cinq grandes collections que l'on visitait obligatoirement quand on se rendait à Rome. C'est un peu dommage aujourd'hui qu'elle soit dispersée dans les salles du musée. Je pense que ce serait mieux, mais je ne devrais pas dire ça maintenant, que je suis à la retraite, de la reconstituer, de la montrer dans son entité telle qu'elle était présentée à Rome au palais Borghese. Ça c'est, si vous voulez, un vrai achat. Et il y a eu, de la part de Denon, sous l'Empire, des achats importants, d'œuvres insoupçonnées.
Et aussi beaucoup de commandes.
Et aussi
il a fait vivre pas mal d'artistes.
Absolument, il avait la responsabilité des salons et il a en effet passé beaucoup de commandes. Et puis naturellement, l'exemple tout simple et bien connu de la bataille d'Eylau, par exemple, dont il a commandé, dont il y a eu un concours gagné par Gros, etc. Donc oui. Il y a eu, à l'occasion comme ça, il a évidemment eu un rôle qui lui a pas déplu, je pense, de mettre en avant le plus possible Napoléon.
Oui.
Et il a joué un rôle.
C'était presque consacré à, n'est-ce pas ?
Bien sûr, c'est la propagande napoléonienne qui a été capitale. Il en a incontestablement été un des éléments.
Et David, il n'était pas un peu jaloux ?
Si, ça ne s'est pas très bien passé, de part et d'autre, entre David et Denon. David était une gloire européenne.
Attends, il a sauvé, excusez-moi de vous interrompre, mais il a sauvé pendant la Révolution, je ne m'abuse.
Oui, mais ça, ce n'est pas très clair. Non, ce n'est pas très clair. On a essayé justement de comprendre mieux ce qui s'est passé. Il a sans doute sauvé, parce que David, évidemment, était, si on dirait aujourd'hui, d'extrême gauche. Enfin, il était proche de Robespierre. Et Denon, c'était quand même un surgeon de l'ancien régime. Et Denon, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, vient au pire moment de la terreur à Paris.
Il vient à Paris.
C'était au pire moment de la terreur.
Se jeter dans la gueule du loup.
C'est absolument. Et là, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé, ni en effet le rôle qu'a pu jouer David pour le protéger et pour lui éviter le pire. Ceci dit, les choses vont si vite qu'on ne sait pas ce qui serait passé.
Ils ont fait ensemble une gravure.
Denon a gravé d'après David.
Oui, c'est ça, oui.
Denon a gravé d'après David. Voilà. Les relations étaient difficiles, d'abord parce que David était un personnage très difficile lui-même, humainement. Deuxièmement, ses ambitions financières pour ses œuvres étaient gigantesques. Et Denon, il y avait plus ou moins aussi une responsabilité de gestion d'argent. Et les sommes que demandait David étaient immenses. Et puis, sans doute, il y avait en effet une petite part de jalousie, dans la mesure où Denon était aussi un artiste et qu'il savait fort bien que ses talents n'égalaient pas ceux de David, qui d'ailleurs ne tolérait pas beaucoup. Il avait ses élèves, mais les concurrents, il ne les aimait pas beaucoup.
Oui.
Il ne les aimait pas beaucoup. Donc les relations étaient difficiles. À mon avis, on ne peut pas exclure que Napoléon était assez content de jouer ces différents personnages, Percier Fontaine, Denon, David, les uns contre les autres. Ça devait bien lui plaire.
Oui, oui, c'est une politique qui a fait ses preuves dans l'histoire.
Absolument.
Oui. Juste encore un petit mot, puisque nous avons parlé de nos artistes, de nos collectionneurs, de nos diplomates aventuriers. Lequel de ces personnages a votre préférence, Pierre Rosenberg?
C'est évident, pour moi, ça ne peut qu'être le directeur du Louvre, c'est évident. Oui. Il a été le plus grand directeur du Louvre dans l'histoire des musées. On cite comme ça quelques très grands directeurs, on cite toujours deux noms, Wilhelm von Bode pour Berlin. Mais je vais vous raconter une petite histoire un peu plus personnelle qui peut amuser vos auditeurs. Quand il était en Égypte, Bonaparte a créé un institut d'Égypte. Oui. Cet institut d'Égypte, comme je le disais tout à l'heure, il y avait Monge, il y avait Berthollet, il y avait Dolo Mieux, le fameux géologue. Il venait de tous les bords. Il y avait des linguistes, naturellement des orientalistes. Et cet institut d'Égypte était un peu constitué à l'image de l'ancien institut d'avant la Révolution. Et comme le sera l'institut dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Oui. Donc avec des costumes, des réunions régulières, des publications qui ont été faites au Caire, avec des imprimeries que l'on avait installées au Caire venant de France. Enfin, vous voyez un peu tout. Et chacun des membres de cet institut avait droit à une épée. Une épée en argent et qui avait été dessinée, semble-t-il, par Biennet. Et toutes ces épées sont identiques. Il y a une en or, qui était celle de Bonaparte, qui est conservée, je crois, à Fontainebleau. Et puis toutes les autres, on en connaît un certain nombre aujourd'hui. Et quand j'ai été élu à l'Académie française, j'ai eu droit à mon épée. Et à ce moment-là, le conservateur du Louvre, qui était chargé des objets d'art, a retrouvé une de ces épées d'Égypte. Et oui. Il la voulait pour le Louvre. Alors la souscription a permis d'acquérir cette épée que je porte. J'espère bien la garder quelques années. Et qu'elle n'entrera au Louvre qu'à ma mort. C'est normal. Je crois que c'est normal. Et naturellement, pour compléter la belle histoire, mais naturellement elle est fausse, au moins elle a eu une grande chance d'être fausse, je rêve toujours que c'est l'épée de Denon.
Oui, bien sûr. Oui.
Mais comme elles sont
parce
toutes pareilles...
Parce que comme vous dites, elles sont toutes identiques, donc
elles sont identiques.
Ça restera toujours un mystère.
Mais enfin, ça fait rien.
Oui. Je voulais quand même encore vous poser une question au sujet de Denon, dessinateur, plus précisément, parce qu'il est question dans sa biographie de dessins pris à pic. Où peut-on les voir?
Eh ben, oui.
Ça m'a intrigué, vous comprenez.
Oh, ils sont partout. Dans le catalogue, là, nous en avons reproduit quelques-uns. Ce sont des dessins, c'est plutôt des gravures, si vous voulez, oui. Où en effet, on voit des sexes masculins gigantesques escaladés par des lilliputs, des nains, etc., des sexes plus ou moins en érection. La part érotique de l'œuvre de Denon est considérable.
Qu'on trouve aussi dans son roman, que vous avez évoqué tout à l'heure.
Dans Le lendemain. Mais non, il n'avait pas du tout peur. On peut les voir assez communément. Les premiers tirages sont devenus rares et pas faciles à trouver, mais ils ont été retirés durant tout le 19e siècle et dans le 20e siècle. Donc on en voit aujourd'hui qu'assez souvent, mais des tirages modestes. Oui, il y a toute une série.
Il faut dire que c'était aussi l'époque où on était assez libertin par moment.
Mais oui, c'est ça qui est intéressant avec Denon, c'est qu'il a vécu la fin de l'Ancien Régime, oui. La Révolution, l'Empire, Louis XVIII, etc. Il a donc passé à travers tous ces événements. Et parfois, il y a participé très directement. Et il a, de toutes ces périodes, capturé quelque chose pour son œuvre. Parce que si vous voulez, où le balancier penche vers le graveur licencieux, le romancier leste, le diplomate d'avant la Révolution, où le balancier penche vers l'homme des idées de la Révolution, d'égalité, d'éducation et d'amélioration des conditions de vie des populations. Et il a su toujours tenter un équilibre entre ces ambitions si différentes.
Oui. Et donc, finalement, sa plus grande création était la création, la constitution de la collection du Louvre, parce qu'elle existe.
Non, les aménagements intérieurs, oui. Les premières publications, l'idée même que ce soit le Louvre, qui est une idée déjà de l'Ancien Régime, devienne le grand musée national, l'idée que ce soit un musée à échelle européenne qui présente des créations de tous les pays européens. Non, tout ça, donc c'est sa grande création, et c'est une création, hélas, disparue aujourd'hui, détruite, mais qui a été un modèle pour toute l'Europe jusqu'à nos jours.
Oui, donc le musée universel que nous devons à Dominique Vivant Denon. Pierre Rosenberg, un grand merci de nous avoir fait revivre ce personnage vraiment passionnant que fut Dominique Vivant Denon, fondateur de cet illustre musée qu'est le Louvre et dont vous avez vous-même été président directeur de 1994 à 2001. Un grand merci. Au revoir.
Prolongeons ce moment ensemble avec Pierre Rosenberg qui nous a fait le plaisir de lire un extrait du livre de Vivant Denon, Voyage en Basse et Haute Égypte, illustrant l'atmosphère de cette campagne de Bonaparte.
Au soir, je me sentis anéanti par une chaleur étouffante. La fluctuation de l'air me paraissait suspendue. Au moment où j'allais me baigner pour remédier à cette sensation pénible, je fus frappé, à mon arrivée sur le bord du Nil, du spectacle d'une nature nouvelle. Le soleil, sans être caché, avait perdu ses rayons, plus ternes que la lune. Il ne donnait qu'un jour blanc et sans ombre. L'eau ne réfléchissait plus ses rayons et paraissait troublée. Tout avait changé d'aspect. C'était la plage qui était lumineuse, l'air était terne et semblait opaque. Un horizon jaune faisait paraître les pierres d'un bleu décoloré. Des bandes d'oiseaux volaient devant le rivage, les animaux effrayés erraient dans la campagne et les habitants qui suivaient ne pouvaient les rassembler. Le vent qui avait élevé cette masse immense et qui la faisait avancer n'était pas encore arrivé jusqu'à nous. Nous crûmes qu'en nous mettant dans l'eau, qui était calme alors, ce serait un moyen de prévenir les effets de cette masse de poussière qui nous arrivait du sud-ouest. Mais à peine fûmes-nous entrés dans le fleuve qu'il se gonfla tout à coup, comme s'il eût voulu sortir de son lit. Les ondes passaient sur nos têtes, le fond remuait sous nos pieds. Nos habits fuyaient sur le rivage qui semblait être emporté par le tourbillon qui nous avait atteint. Nous fûmes obligés de sortir de l'eau. Ainsi, nos corps mouillés et fouettés par la poussière furent enduits d'une boue rose qui ne nous permit plus de mettre nos vêtements. Éclairés au moment par une lueur roussâtre et sombre, les yeux déchirés, le nez obstrué, notre gorge ne pouvant suffire à humecter ce que la respiration nous faisait absorber de poussière. C'est dans ces moments que nous sentîmes vivement quel devait être le malheur de ceux qui sont surpris dans le désert par un pareil phénomène.